RTL Sport. Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous dans Mondial Sport ce soir. Une grande page football, Paris champion en catimini, la vie de Basile par les frères Boli, l'épilogue fou de la Bundesliga et le Brésil qui s'indigne après les insultes racistes contre Vinicius. À suivre aussi du basket, la finale de la Basketball Africa League, l'AS Douane de Dakar pouvait remporter la troisième édition, Paris gagné ou non, réponse dans cette émission. Et puis s'éveille de rentrée sur l'ocre sacré, la terre battue de Roland-Garros que les meilleurs joueurs de tennis du monde s'apprêtent à fouler. Enfin les meilleurs, sans le meilleur d'entre eux, Raphaël Nadal, forfait cette année. Vous avez le menu, installez-vous, Olivier Roux apporte les plats. Mondial Sport, c'est parti. Et de 11 titres de champion de France pour le Paris Saint-Germain, record assuré ce soir sur la pelouse de Strasbourg où les joueurs de Christophe Galtier ont fait match nul, un but partout, Messi contre un but de Gamero. Patrick Juillard, l'un de nos consultants, est avec nous ce soir par téléphone. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, il y a de la joie, de l'euphorie normalement, comme ça les soirs de titres. Avec ce match nul un peu fade et puis des joueurs qui ont assez vite quitté le terrain, on n'est pas vraiment dans le même registre. Si je parle d'un triste champion, d'une triste soirée, est-ce que c'est un peu dur ?
Non, c'est pas dur du tout. C'est là, ça reflète tout à fait la réalité. C'est un champion qui a déchanté, en fait. C'est-à-dire que ce titre arrive trop tard. La saison est déjà en grande partie ratée. Ce titre ne fait que légèrement compenser et rattraper un petit peu. Si on regarde un peu les forces en présence et notamment les budgets, le fait que le PSG soit champion, c'est un train qui arrive à l'heure, hein, comme on dit. Maintenant, c'est plus la manière qui peut nous intéresser. Et à ce niveau-là, le PSG a eu un tel trou d'air entre la fin de la Coupe du Monde et le début du mois d'avril que le compte n'y est pas. Et il restera beaucoup de mauvais souvenirs de cette saison, davantage que celui d'un titre supplémentaire qui effectivement s'ajoute à une longue liste, mais n'est pas parmi les plus glorieux.
Avec en plus des affaires internes autour des joueurs stars, évidemment, et puis l'élimination précoce en huitième de finale de Ligue des Champions. Il y a quand même ce record, Patrick, 11 titres de champion de France, qui, s'il ne valide pas totalement le projet qatarien, fait bien rentrer un peu plus le PSG dans l'histoire. Ça n'est pas rien non plus.
Non, ça n'est pas rien, effectivement. C'est-à-dire que le PSG a au moins inscrit dans les têtes l'idée que c'est normal que cette équipe gagne le championnat. Même avec beaucoup d'argent, c'est pas évident, il faut quand même gagner ses titres, donc ça c'est vrai. Maintenant, ce qui est plus problématique, c'est la progression, c'est-à-dire que le PSG accumule les titres, si on regarde juste les stats et les lignes sur le palmarès, bon, c'est positif, ça montre que y a quand même quelque chose derrière, mais si on regarde la manière dont ils les gagnent, c'est de plus en plus difficile et la marge qu'ils avaient il y a encore 4 ou 5 ans est en train de se réduire. Et cette saison, c'est très paradoxal. Le PSG a un total de points qui est probablement, on peut penser qu'il sera dans les 4 ou 5 plus meilleurs de l'histoire de la Ligue 1. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de défaites qui font tâche dans ce total. Donc, ça brouille un peu l'analyse et bon, au final, on n'a pas une impression de sérénité et de progression nette. Et c'est pour ça que on déchante un petit peu et les supporters ne sont pas dans l'euphorie aujourd'hui.
Alors, comme souvent en fin de saison, encore plus cette année avec le PSG, on parle des chantiers de l'été. Là, c'est pas trois coups de peinture, Patrick. Là, il va falloir sans doute reconstruire des fondations au toit de la maison.
Oui, il y a beaucoup à faire puisque le temps passe et beaucoup de joueurs sont un petit peu en fin de cycle. On fait de très longs séjours au PSG et ils tirent un peu la langue. On peut penser à Verratti qui a des envies d'ailleurs. On peut penser à Marquinhos qui est aussi là depuis à peu près 10 ans. Certains postes sont mal pourvus. Di Maria n'a pas été remplacé. Les stars, Neymar serait partant, ça sera difficile parce que son salaire en fait un joueur pratiquement intransférable. Messi est en fin de contrat et tout indique qu'il ne prolongera pas. Mbappé est dans sa dernière année de contrat, il y a des doutes sur le fait qu'il active ou non cette option qui pourrait le faire rester un an de plus. Il y a beaucoup d'incertitudes, donc comme le
Autour de
gouverneur s'est fait,
l'entraîneur aussi.
et évidemment autour de l'entraîneur. Alors là, officiellement, Galtier est encore en poste et rien n'est décidé, mais on sait que le PSG pourrait changer. On ne voit pas trop comment ils pourraient faire autrement s'ils veulent envoyer un signal fort. Et puis, il y a une instruction, enfin, il y a une affaire, donc il pourrait y avoir des suites judiciaires pour l'entraîneur. Donc tout ça fait que oui, le Qatar va sans doute vouloir en changer. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes, mais le PSG ne pourra pas forcément faire ce qu'il veut parce que ses joueurs sont payés très très grassement et il n'est pas évident de pouvoir s'en libérer à des conditions acceptables pour eux. Et tant qu'ils sont sous contrat, ben, ils peuvent être tentés de rester. Ajoutons enfin que le PSG va voir revenir tous les joueurs prêtés. Qui ont fait de plus ou moins bonnes saisons. Ceux qui ont fait de bonnes saisons pourraient être transférés définitivement, mais les autres vont sûrement revenir. Donc ça va là aussi limiter la marge de manœuvre, parce que bon, la masse salariale, elle ne peut pas grossir à l'infini. Donc voilà, c'est rien n'est évident et le mercato va être à suivre avec beaucoup d'intention et c'est encore un beau chantier qui se
Ouais,
prépare.
et un été brûlant pour le Paris Saint-Germain qu'on suivra évidemment. Et vous aussi, Patrick Juéard,
Bien sûr.
merci et bonne
Merci à
soirée
vous.
à vous.
Vous aussi. Au revoir.
Et l'autre enseignement de cette 37e journée, c'est la confirmation que Lens sera dauphin du PSG et donc directement qualifié pour la Ligue des Champions. Lens vainqueur 3-0 d'Ajaccio, alors que le troisième Marseille s'est incliné 2-1 à domicile contre Brest, malgré le but de Chancel Bemba, le Congolais. Un peu la douche froide quand même pour l'OM, cette nouvelle défaite. Pourtant, l'ambiance était très chaude avant le coup d'envoi. Écoutez, il était un peu moins de 21h à Marseille. Les notes du mythique Jump de Van Halen et tout le vélodrome debout pour acclamer 30 ans après les héros du sacre en Ligue des Champions, le seul de l'histoire du club, le seul toujours de l'histoire du football français. À jamais les premiers, Didier Deschamps, Fabien Barthez, Abedi Pelé et bien sûr Basile Boli, l'unique buteur de la finale face au Milan AC. Un coup de tête pour la légende du défenseur franco-ivoirien qui, sans être le plus doué, est devenu le plus connu de sa famille de footballeurs. Roger, le grand frère, lui aussi a été professionnel. Laurent, le petit, est aujourd'hui président de club à Abidjan. Ils nous racontent tous les deux dans ce reportage sans commentaire l'incroyable destin de leur champion de frangin. Écoutez, c'est Laurent qui parle en premier.
Quelqu'un qui n'était pas doué, qui n'était pas prédit pour une grande carrière footballistique, avoir fait un parcours comme ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la vie de Basile. Nous avons grandi dans une famille passionnée de football. Le papa, grand, grand supporter d'Africa Sport. La maison était peinte en vert et rouge. Il y a des photos d'anciens joueurs, Niaouré Bena, Mo Emmanuel, toutes ces gloires-là. Basile était quelqu'un qui était reconnu comme étant un grand bagarreur, qui finissait jamais les matchs à 90 minutes. Il était tout le temps expulsé parce qu'il voulait jamais perdre. Si jamais il y avait la VAR à son époque, ben lui, je pense qu'il serait suspendu à vie parce qu'il mettait des coups, des attentats, des tacles.
On a fait beaucoup de très bonnes choses en Côte d'Ivoire jusqu'au jour où, ben, on nous a séparés. Moi, je suis venu d'abord en France et ensuite Basile est arrivé. Mais on a toujours continué cette solidarité qu'on avait en Côte d'Ivoire. Parce que ben, quand on est arrivé, je lui ai dit, écoute, on va aller jouer à Romainville. C'est une équipe de quartier, des copains. C'est super sympa, ils sont super gentils. Et en même temps, on joue le championnat de France. C'est un championnat qui est quand même relevé avec des très bonnes équipes. Donc, c'était une manière de se faire remarquer. On a été contacté par plusieurs grandes équipes, notamment en Sochaux et Auxerre.
Roger, meilleur joueur de la région parisienne, attire tous les clubs de son côté. Malheureusement, son frère n'est pas aussi doué. Roger réussit à attirer Giroud et lui dit ben moi je viens si mon frère il vient avec moi. Giroud, plus malin que les autres, il dit d'accord, mais dans sa tête il se dit un an après je libère le plus grand parce que j'ai besoin des plus petits. Et après le reste de la carrière vous la connaissez, c'est le plus grand au bout de quelques mois qui joue en première et qui est champion d'Europe après avec Marseille. Vous voyez un peu hein, quelqu'un qui a été rejeté après avoir fait un essai à Nantes. Il n'avait pas voulu de lui parce qu'il n'était pas assez technique. Mais ça, c'est Basile. C'est la détermination, la volonté. Pour nous, c'est un exemple. Et quand on parlait de Boli qui jouait au football, on était très loin d'imaginer que c'était Basile qui allait faire la carrière qu'il a fait. Et la finale, c'est quelqu'un au bout de quelques minutes qui a une contracture à la cuisse, qui a le genou douloureux, qui demande à sortir. Et le médecin en bailli qui dit le boss tapis, il demande de rester, de serrer les dents. Il serre les dents et puis vous voyez un peu la fin. Il marque le but victorieux. Et vraiment, c'est typiquement la vie de Basile. Voilà, il faut y croire jusqu'au bout, il faut s'accrocher.
Il est pas sorti avant la mi-temps, il est resté et il a marqué son but. C'était une explosion de joie. Le but de Basile est incroyable hein, parce qu'en prime, il prend le ballon, mais il prend, je veux pas dire de la nuque, mais de l'autre côté de la tête. J'en suis sûr que lui-même, il s'y entendait pas du tout. Mais qu'est-ce que c'était beau. Et surtout que ce but a changé la vie de Basile, a changé la vie des Bolis.
La vie de Basile par les Bolis, c'était avec Youen Gourlay. Musiala, Musiala! Da ist das Ding, da ist das Tor! Völliger Wahnsinn! Un peu de bon son bavarois et quelques litres de bière à Munich, le champagne rebouché à Dortmund. Vent de folie sur la Bundesliga qui, pour son dernier épisode, nous a réservé un coup de théâtre, le Borussia. À qui le titre était promis, qui devait mettre fin à 10 ans de règne du Bayern, le Borussia grillé sur le fil par son rival. Pour nous résumer tout ça, à peine remis de ses émotions, notre correspondant outre-Rhin, Julien Méchaussier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous.
Quel scénario de folie nous avons vécu, vous avez vécu aujourd'hui.
Ouais, grosse, grosse journée, le Bayern a de nouveau champion. Mais quelles incroyables dernières minutes nous ont offert la Bundesliga cet après-midi. Personne ne misait sur un tel dénouement alors que tout était déjà prêt dans les rues de Dortmund pour fêter ce 9e titre. Mais absolument tout s'est passé à l'envers pour le BVB, privé de Jude Bellingham, pas assez remis de blessure, mené 2 à 0 au bout de 25 minutes, un pénalty raté par Sébastien Haller alors que Mayence ne menait que 1 à 0. Et pendant ce temps-là, Kingsley Coman ouvrait le score à Cologne sur une magnifique frappe enroulée. Les 80 000 spectateurs du Signal Iduna Park avaient pourtant pu compter sur des invités surprises, elles aussi vêtues de jaune et noir. Un essaim d'abeilles s'était installé sur un projecteur placé au bord du terrain, un signe du destin qui n'a pas eu d'effet malgré l'égalisation de Cologne qui refaisait passer Dortmund devant le Bayern. Le BVB champion jusqu'à la 89e minute avant que Jamal Musiala, entré en jeu, ne décoche un tir aux abords de la surface. Et l'international allemand, 20 ans, offre un titre complètement inespéré au Bayern. Et l'égalisation au bout du temps additionnel de Niklas Süle n'y changera rien. Les Bavarois sont champions grâce à une meilleure différence de but. Et Dintervic, l'entraîneur du BVB, était dévasté comme tout le peuple jaune et noir avec lui.
Tout le monde souhaitait revivre une Bundesliga avec du suspense jusqu'au bout. Je pense que nous avons réussi au moins ça. Bien sûr, nous aurions aimé un autre dénouement et nous le méritions. Mais nous allons nous relever et revenir plus fort.
Premier buteur, Kingsley Coman, lui au micro de Bein, avait du mal à réaliser.
On y a cru jusqu'au bout, c'est extraordinaire. Mais après, on ne va pas se mentir, on savait qu'on n'avait pas tout le destin entre nos mains. Mais quand on a vu dès le début du match 1-0, 2-0 et nous on mène 1-0, on a dit aujourd'hui il y a vraiment quelque chose à jouer.
Ouais, le Bayern qui avait quelque chose à jouer, surtout grâce en fait, à la contre-performance sur l'autre terrain de Dortmund, Julien.
Ouais, on pouvait s'attendre à ce que le Bayern gagne à Cologne, qui n'avait plus rien à jouer, même si ça a été difficile au final pour les hommes de Thomas Tuchel. Mais voir Dortmund être mené 2 à 0 face à Mayence, qui lui aussi n'avait plus rien à jouer, c'était juste inimaginable. Pourtant, il y avait eu plusieurs précédents cette saison et de nombreuses occasions manquées. On se souvient entre autres du 3-3 à Stuttgart face à une équipe réduite à 10 dès les premières minutes. Et cette dernière journée a été finalement à l'image de la saison de Dortmund. Les hommes de la Ruhr n'ont pas su profiter de la saison plus que chaotique du Bayern, alors que c'était vraiment l'année ou jamais. Et c'est le sentiment ici dans la presse, chez les supporters. Le BVB a laissé échapper tout seul ce titre et l'a même servi au Bayern sur un plateau.
Alors évidemment, on a vu les joueurs du Bayern célébrer ce titre avec leurs supporters, la remise du trophée juste après le match. Joueur du Bayern et un club quand même vite rattrapé par la réalité de cette saison difficile et l'annonce de deux départs très importants parmi les dirigeants.
C'est dans le vestiaire que les joueurs l'ont appris. Oliver Kahn, le président du club, et le directeur sportif Hasan Salihamidžić ont été démis de leurs fonctions dans la foulée du coup de sifflet final. Si on peut se poser la question du timing de cette annonce, elle reflète parfaitement la saison des Bavarois, éliminés tôt en coupe, éviction de Julian Nagelsmann, parcours décevant en Ligue des Champions, et ce titre de champion qui tient du miracle, ça ne suffit évidemment pas quand vous êtes le Bayern. Des départs qui en appellent d'autres, hein, Thomas, avec un effectif qui sera profondément remanié cet été. Et on pense évidemment à Sadio Mané, resté sur le banc une nouvelle fois aujourd'hui.
Rapidement, Julien, un mot sur le reste du classement définitif.
Le RB Leipzig est le troisième qualifié en Ligue des Champions, accompagné de la belle histoire qui n'en finit plus de s'écrire ici. Le Hertha FC Union Berlin a arraché le dernier billet pour la C1 avec une victoire conjuguée à la défaite de Fribourg. Et pour la descente, ce sont deux grands clubs historiques, des monstres sacrés du foot allemand qui passent à la trappe. Le Hertha Berlin et Schalke, un an après avoir retrouvé l'élite. Et le VfB Stuttgart devra lui passer par les barrages et ce sera contre le troisième de la Zweite Bundesliga, Thomas.
On est complet, merci beaucoup Julien. Bonne soirée à vous en Allemagne et puis avec le Paris et le Bayern Munich, tous les grands championnats, ça y est, tous les grands championnats européens ont leur vainqueur cette saison. Reste à attribuer les places d'honneur. Et en Espagne, le Real Madrid, c'est bon, s'est assuré de sa place de dauphin du Barça. Le Real, vainqueur 2-1 ce soir à Séville, doublé de Rodrigo, un dribbleur brésilien, alter ego quasiment de son compatriote Vinicius. Absent, lui, blessé légèrement à un genou et qui, de toute façon, n'a sans doute pas vraiment la tête au jeu après les événements du week-end dernier à Valence lorsqu'il a été victime, une fois de plus, d'insultes racistes venues d'une partie du stade. Et cette fois, les réactions indignées ont dépassé les frontières du foot et de l'Espagne. Même Lula y est allé de son commentaire et au diapason de son président. C'est tout un pays choqué qui, aujourd'hui, n'en peut plus. Reportage à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino.
Avec cette affaire, même les Brésiliens qui ne suivent pas le foot se sont sentis indignés. C'est le cas de Paola.
Franchement, je n'en peux plus de voir ces affaires de racisme dans les stades. C'est un racisme sans visage parce que les racistes n'assument pas, ils se cachent dans la foule pour distiller leur haine. De l'autre côté, la victime est sur scène, entend tout ça, c'est brutal. C'est beaucoup de couches de violence que je n'arrive plus à supporter.
L'ampleur et la récurrence des attaques contre Vinicius Junior a choqué Carlos.
Ce n'était pas 5 ou 10 personnes, c'était quasiment la moitié du stade. C'est problématique et il ne mérite pas ça. Être appelé de singe, c'est une agression. Il a la peau noire, mais son cœur est pur comme tout le monde.
Pour la journaliste sportive et chercheuse Julia Bastos, cette agression représente le sommet d'une série d'attaques, un comportement ancré dans le football espagnol.
Pour en arriver à ce point, il y a eu un long moment d'impunité et de négation. On a ignoré qu'il était en train de devenir la cible de groupes de supporters dans toute l'Espagne. Tout ça explique pourquoi l'affaire en est arrivée là, que ce soit dans la force des agressions, mais aussi dans la réponse et la répercussion de ce cas.
L'affaire a été condamnée par le président brésilien et la ministre de l'égalité raciale. Ce positionnement politique a fait la différence, selon la chercheuse.
Ça a été une étape importante parce que c'est seulement après ça que la Liga a présenté ses excuses, qu'elle a essayé de comprendre ce qu'il s'était passé et qu'elle a remis en question l'attitude des arbitres.
Contrairement au premier discours de la part des dirigeants du football espagnol qui jugeaient l'affaire comme un cas isolé, Ayla souligne qu'il est grand temps de s'attaquer aux racines du problème.
Je suis d'accord avec Vinicius Junior, l'Espagne est raciste.
Je suis d'accord avec Vinicius Junior, l'Espagne est raciste et pour changer, il faut s'attaquer à la base, à l'éducation. Donc tant que le gouvernement espagnol n'arrivera pas à changer cet état d'esprit de la société, ça ne changera pas non plus dans le football. Et ce n'est pas à sanctionner 7 supporters qui changera le problème.
Pour beaucoup de Brésiliens, les sanctions sont encore insuffisantes car Vinicius Junior n'est pas le seul à subir ce genre d'attaque. Et le Brésil est le pays qui exporte le plus de joueurs de foot. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Mondial Sport sur RFI.
En basket, la dernière marche était un peu haute pour les Dakarois de l'AS Douane. À une rencontre de réussir une immense performance remportée à Kigali, la troisième édition de la Basketball Africa League, le championnat continental organisé par la NBA. Les Sénégalais, malheureusement, se sont inclinés en finale donc face aux Égyptiens d'Al Ahly, 80-65. La fin d'une fantastique épopée marquée par plusieurs exploits, notamment en demi-finale face à Petro de Luanda, l'équipe favorite de la compétition. Reportage de Lucie Mouillot.
Un coup de sifflet et les cris de joie des Égyptiens du club Al Ahly qui soulèvent pour la première fois cette coupe de la balle. Face à eux, une équipe sénégalaise silencieuse, déçue, qui aura cru jusqu'au bout à ses chances de surprendre une nouvelle fois les spectateurs de l'aréna plus que remplie de Kigali. Pour Adama Diakité, joueur de l'AS Douane, les fautes commises dès le début du match ont été fatales aux Dakarois.
Aujourd'hui, on perd parce que bon, en fait, on a fait trop d'erreurs, perdre des balles. Et juste qu'on a beaucoup raté les tirs à 3 points, je pense. Bon, on a beaucoup raté les tirs, pas juste à 3 points, on a beaucoup raté. Et ils ont pris l'avantage et ça a payé cash. On a pu arriver en finale, c'est historique. Donc je suis fier de mes coéquipiers, du coach. Ça aurait été plus joli si on a mené le trophée à la maison, mais still proud.
De nombreuses fautes dès le premier quart-temps, empêchant les joueurs de mener la défense solide dont ils ont l'habitude. Face aux tireurs adverses enchaînant les paniers à 3 points avec un Anoumoua au motte des grands jours, l'offensive d'Al Ahly était tout simplement trop efficace pour les Sénégalais, explique le coach Mamadou Gaïpabi.
Avec une très grande équipe d'Al Ahly qui nous a posé des problèmes du début à la fin, il faut l'avouer, ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu. Les fautes, raison pour laquelle nous n'avons pas pu mieux défendre par rapport aux autres matchs, parce que nous avons commis trop de fautes très tôt, ce qui nous a empêchés d'être moins agressifs.
Mais pour l'équipe dakaroise, si la défaite est amère, le parcours reste plus qu'honorable. Après deux matchs perdus à la conférence du Sahara en mars dernier, l'AS Douane réalise un premier exploit en éliminant les Tunisiens du Monastir, champions de la balle en 2022. Arrivés aux phases finales comme outsider, c'est avec force qu'ils remportent le quart de finale, puis la demi contre les Petro de Luanda, favoris de la compétition et invaincus depuis le début de la saison. Une belle leçon, selon le coach sénégalais.
Nous avons cru en nos chances, continue à travailler avec nos capacités, notre défense, notre jeunesse, pour pouvoir vraiment soulever des montagnes, ce que nous avons essayé de faire. Donc je dis aux Sénégalais, ils peuvent être fiers du parcours des gosses, parce que les gosses aussi sont très jeunes. La plupart d'entre eux ne sont jamais même pas sortis du Sénégal, n'ont jamais pris l'avion. Donc je dis que c'est un exploit énorme.
L'AS Douane retourne à Dakar avec la médaille d'argent, mais aussi le trophée du meilleur entraîneur de la balle pour Mamadou Gaïpabi et encore plus l'envie de gagner l'année prochaine pour la quatrième édition de la Ligue africaine de basket. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Du tennis maintenant, qui succédera à Rafael Nadal au palmarès de Roland-Garros le 11 juin prochain ? Pas l'Espagnol lui-même, c'est sûr, il est forfait sur blessure, le maître des lieux, en son absence. Les candidats sont nombreux, porte d'Auteuil, pour situer les forces en présence à la veille du coup d'envoi du Grand Chelem parisien. On se tourne vers Eric Mamrut qui sera avec Olivier Pron et Frédéric Suto, l'un de nos envoyés spéciaux pendant cette quinzaine. Bonsoir Eric.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Raphaël Nadal, grand absent, on se tourne naturellement vers l'autre monstre du circuit, Novak Djokovic.
Oui, comme l'ogre majorquin, le Serbe possède déjà 22 trophées du Grand Chelem dans son armoire, le dernier en janvier à l'Open d'Australie. Depuis, Novak Djokovic n'a pas beaucoup joué, privé de tournée américaine en raison encore de son statut vaccinal. Et à son retour sur le circuit, il a eu du mal à retrouver le bon rythme, perturbé en outre par une blessure au coude. Résultat, seulement 5 matchs gagnés pour 3 perdus sur terre battue. Novak Djokovic arrive pour une fois sans grand repère, porte d'Auteuil, mais cela n'inquiète pas pour autant le directeur technique national du tennis français, l'ancien joueur Nicolas Escudé.
On l'a vu par le passé, que c'était avec les Roger, que c'était avec les Rafa, c'est la même chose pour Novak. Sur les tournois du Grand Chelem, quel que soit ce qui a pu se passer avant, ils arrivent toujours à faire en sorte d'être présents, de répondre présents. Après, effectivement, et on en a parlé, il se retrouve dans une partie de tableau qui est très costaud. Très costaud, mais il va être là, il va être là. Après, je suis là en train de vous dire ça, et puis il va y avoir une surprise juste démentielle, il va se faire sortir au premier tour, mais non, j'y crois pas.
Novak Djokovic qui se trouve en effet dans la moitié de tableau de Stefanos Tsitsipas, le grec finaliste, ici il y a 2 ans, et surtout de l'Espagnol Carlos Alcaraz.
Le numéro 1 mondial, Alcaraz, qui lui a continué d'impressionner.
Oui, vainqueur de l'US Open en septembre, le prodige de 20 ans a certes raté l'Open d'Australie en janvier suite à une blessure, mais il s'est bien rattrapé ensuite, remportant 3 des 6 tournois auxquels il a participé. Rapide, puissant, inébranlable mentalement, il fait déjà figure d'épouvantail. Il impressionne en tout cas l'ancien entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou.
Carlos a gagné un grand chelem, il est numéro 1 mondial, il n'a pas rejoué pendant un moment. Quand il a repris, il a fait un ou deux très mauvais matchs, il s'est reblessé d'ailleurs. Quand il a abordé les tournois où il avait beaucoup de points à défendre, il n'avait aucune référence. Il a fait un Masters 1000 qu'il a gagné, c'était Madrid, et il a été mentalement monstrueux. Donc on l'attendait là, on voulait voir si justement face à la pression, il allait résister, il a résisté d'une manière extraordinaire. Donc effectivement, on va compter sur lui maintenant tout le temps, et le seul danger, c'est les blessures, parce que pour un joueur aussi jeune, il y a déjà eu pas mal de petits pépins.
Patrick Mouratoglou, actuellement entraîneur d'Holger Rune, autre jeune loup dans l'ongle du circuit, le Danois déjà 6e mondial. Il fait partie des outsiders de ce Roland-Garros en compagnie des Russes, Andrei Rublev, vainqueur à Monte-Carlo, et Daniil Medvedev, qui vient de s'offrir dimanche dernier à Rome le tout premier sacre sur terre battue de sa carrière.
Cette liste de favoris ne comprend pas de joueurs français. Normal, aucun d'entre eux ne fait partie des 32 têtes de série du tournoi.
Oui, alors bon, si vous voulez quand même mettre un petit billet, vous pouvez peut-être miser sur l'éternel espoir avant Roland-Garros, l'ancien Gaël Monfils, même s'il n'a toujours pas gagné un match depuis son retour sur le circuit en mars, après une très longue absence sur blessure. Le Guadeloupéen de 36 ans qui a choisi de venir à Paris sans se mettre la moindre pression sur les épaules. Gaël Monfils.
Il faut me laisser tranquille un tout petit peu. J'ai envie de kiffer un peu ma fin et... Franchement, je suis là, je joue, je suis content, je peux jouer Roland-Garros. Imagine, d'ailleurs, je ne l'ai pas joué. Je l'ai bien dit, il n'y a plus d'attente à avoir sur moi, juste kiffer. Les gens qui ont aimé un peu ce que j'ai pu faire viennent partager un bon moment. Et il y a des victoires, c'est content, mais sinon, c'est le kiff, quoi. Quand je dis c'est la fin, je ne vais pas jouer dire Roland-Garros. Je n'ai pas une date précise, mais c'est bientôt. Donc, il y a la nouvelle génération. Maintenant, allez faire chier la nouvelle génération. Moi, je m'en fiche de gagner des matchs ou pas gagner des matchs. Ce que je veux, c'est kiffer, d'essayer de faire le maximum et de revenir. Si je peux à un bon niveau. Là, maintenant, j'essaie d'arriver en forme. Et si je peux gagner un match, je peux en gagner un deuxième. Que ce soit ici, que ce soit autre part, c'est ça qui me fait kiffer, quoi.
Bon, Gaël Monfils, sans aucune ambition dans son tournoi fétiche, chez lui à Paris, devant ses amis et sa famille, on n'est pas obligé de le croire à 100%, Thomas. En tout cas, côté français, c'est plutôt vers les femmes qu'il faut se tourner, peut-être pour trouver une chance de sacre avec Caroline Garcia, la lyonnaise 5e mondiale. Tout de même, elle va essayer de contrarier les deux grandes favorites de ce tournoi, que sont la Biélorusse, Arina Sabalenka, et Gaziantep, la polonaise du numéro 1 mondial et tenante du trophée.
Eh bien, merci Eric. Bon début de tournoi à vous. On vous retrouve demain pour les premiers résultats, les premières petites histoires de ce Roland-Garros édition 2023. Allez, avant de se quitter, de vous dire aussi à demain, quelques résultats par-ci par-là. La Coupe du Monde des moins de 20 ans de football, d'abord, c'est en Argentine. Première défaite, troisième match, première défaite pour le Nigeria, battu 2-0 par le Brésil, mais les Nigérians avec 6 points, sont assurés d'être en 8e de finale. En ce moment, le Sénégal joue son va-tout contre la Colombie après un match nul et une défaite. Eh bien, les Sénégalais, à la mi-temps, bonne nouvelle pour eux, mènent 1-0 face aux jeunes Colombiens. Le but de Mamadou Lamine Camara. Avantage donc à confirmer en deuxième période pour espérer, pourquoi pas, continuer ce tournoi. Et puis, c'était décidément une journée chamboule-tout dans le monde du sport aujourd'hui, comme le Bayern Munich en football. Primoz Roglic a tout renversé sur le Giro, le tour cycliste d'Italie. À la veille de l'arrivée à Rome, il a repris au Britannique Geraint Thomas le maillot rose de leader de la course en remportant aujourd'hui un contre-la-montre très particulier, très difficile, avec une longue ascension, des pourcentages terribles qui ont fait craquer Geraint Thomas. Après 20 étapes, 14 petites secondes séparent désormais les deux hommes, et sauf coup de théâtre, le classement ne bougera plus. Le Français Thibaut Pinot s'est classé 5e de l'étape. Il est aussi 5e du classement général et assuré de porter jusqu'au bout le maillot Azzurro, le beau maillot de meilleur grimpeur de ce Giro. Allez, à demain pour une nouvelle édition de Mondial Sport, et bonne soirée, bien sûr, à l'écoute de RFI. Bye bye.